Le podcast La Chamane est un espace de réflexion libre qui jette un regard hors du commun sur des sujets et des problématiques de tous les jours. Médiumnité, chamanisme, psychologie, neurosciences, intuition, santé holistique et j'en passe. Je suis Amy Gale, votre chamane qui décortique avec vous de nombreux sujets qui ont un impact profond sur nos vies. Toujours avec comme mission la croissance spirituelle et l'épanouissement de chacun.
Allô? Je suis de retour et voilà! Ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook ont vu passer que ça s'en venait, le retour du podcast et les nouveaux épisodes. Je sais pas exactement où je m'en vais avec cet épisode-là, je sais ce que je veux dire, mais ça risque d'être un épisode difficile. Puis comme toujours, c'est important pour moi de le faire en étant honnête, sincère, authentique, comme c'est les grandes lignes du podcast. En même temps, je teste un nouvel appareil, j'ai dû m'acheter un nouvel appareil d'enregistrement, donc je suis un peu irritée par le fait qu'il faut que j'apprenne à bien travailler avec mes outils. Je suis quelqu'un d'impatient, malheureusement, depuis un bon bout de temps. Je pense pas que ça fasse partie de mon essence première, comme la plupart des choses qui nous dérangent, c'est des parties de notre personnalité qu'on développe avec le temps. Alors, c'est ça. Pourquoi je pense que c'est un épisode qui sera pas nécessairement facile à faire pour moi? Je vous explique. Le dernier enregistrement, en fait, le dernier épisode que j'ai mis en ligne datait du... Excusez, j'ai juste mon volume. Datait du 9 août. À ce moment-là, je vous ai expliqué à quel point je me sentais bien. Je ne l'ai pas réécouté, mais je sais qu'en gros, c'était les grandes lignes. Et bon, je pense encore à ce que j'ai dit. Par contre, 2 jours après, j'ai appris que... En fait, ma mère est malade était malade depuis... déjà presque 2 ans, en fait. Puis bon, on savait que ça allait pas bien, mais on sait jamais, on s'attend jamais. Donc, c'est ça. 2 jours après avoir enregistré le dernier épisode, j'ai appris qu'elle était vraiment dans ses derniers jours de vie. Et bon, je suis partie pour la voir le plus possible. Avant qu'elle quitte, puis je me sentais encore super bien, même avec elle, tu sais, oui, j'ai pleuré, mais je me sentais vraiment forte, puis super positive, puis je trouvais ça important de la faire rire, puis de profiter des moments avec elle, puis de faire du bien. Puis je me rappelle les discussions avec ma famille, avec mes frères et sœurs, puis comment je me sentais bien. Et la dernière journée que je l'ai vue, je lui ai dit au revoir. Je lui ai raconté un peu comment, elle était plus consciente à ce moment-là, mais on a eu des moments dans les jours avant où elle était consciente, puis elle trouvait même le moyen de nous faire des blagues à travers tout ça. Puis c'est ça, le jour où elle est décédée, et encore, je me sentais super bien, je suis allée travailler, mon père m'avait appelé dans la nuit pour me dire qu'elle était décédée, puis je suis allée travailler, puis je me sentais bien, j'étais contente de voir les gens, mais le soir, à mon retour vers la maison, je me suis mis à pleurer dans mon auto, puis là, j'ai vraiment commencé à pas me sentir bien, puis j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer quand je conduisais au point où j'aurais pu faire un accident vraiment facilement, puis j'en étais consciente. Et j'étais fâchée, puis on le sait. On l'entend partout, on l'entend même dans les émissions qu'on écoutait quand on était petit. La première phase du deuil, c'est la colère. J'étais vraiment, vraiment, vraiment en colère. Puis ça faisait longtemps. Je dirais que avant ça, j'étais dans un état où pour la première fois, j'étais vraiment beaucoup plus dans l'amour avec les gens. Puis même les gens qui, avant, méritaient plus. Depuis, je dirais, peut-être le dernier mois avant que ma mère quitte, j'étais un peu plus irritée. Je vivais quand même aussi ma séparation amoureuse. Puis, tu sais, même si je vous disais que ça m'a pas fait tomber dans un gouffre, et c'est vrai, c'est sûr que ça me faisait vivre des émotions quand même. Fait que j'étais un peu moins tolérante, un peu moins accueillante. Mais avec le décès de ma mère, là, tout le monde me tapait ses nerfs. Je me suis tapé une crise d'anxiété qui a duré je sais pas combien de semaines. Puis c'est là qu'on voit aussi, je fais une parenthèse sur la nature d'une personne qui est introvertie versus extrovertie. J'écoutais le podcast de Minimaliste cette semaine, qui est en fait ces deux hommes qui sont très connus pour avoir répandu le concept du minimalisme à travers l'Amérique et même à travers le monde, qui ont fait un documentaire aussi là-dessus, qui est disponible sur Netflix. Et j'écoutais, puis ils font beaucoup des questions-réponses, puis il y en avait un qui disait « Qu'est-ce que tu fais pour aider un introverti qui passe une période difficile? Qu'est-ce que tu peux faire? » Ou en fait, la question précise, c'était « Comment est-ce que tu peux entrer en contact? Comment est-ce que tu peux reach out? Comment est-ce que tu peux contacter cette personne-là pour lui dire que tu veux l'aider? Comment est-ce que tu peux l'aider? » Puis la réponse était « Don't. Juste fais le pas. » Puis c'était, en même temps, c'était une blague, puis en même temps, il expliquait que oui, c'est bien, tu sais, de contacter cette personne-là, puis de lui dire « Je suis là pour toi. » Mais c'est quand l'introverti va être prêt à ressortir de sa bulle qui va ressortir. Donc ça peut être juste une pression de plus d'aller cogner à la porte. Puis je me rappelle, j'avais envie qu'on vienne cogner à ma porte, puis en même temps, chaque fois qu'on me contactait, ça me faisait monter mon anxiété. J'avais pas le goût, je voulais pas ouvrir la porte, je voulais pas répondre aux messages qu'on m'envoyait sur Messenger. Puis c'est drôle parce que je pense qu'on... L'objectif, ce serait d'apprendre à reconnaître comment on est construit, puis d'être bienveillant avec soi-même, tu sais. Fait qu'à un certain point, oui, il fallait que je me force à aller vers les gens, mais aussi, il fallait que je respecte mon besoin d'être seule, tu sais. Fait que le temps a passé, je sais pas comment. Ce que je me disais, en fait, c'est comment est-ce que on peut, comment est-ce que je peux continuer à vivre si ma mère est plus là? Puis je veux dire, ça vient tellement me chercher encore, puis c'est, j'ai envie de vous parler de deuil, en fait, c'est ça le gros sujet d'aujourd'hui, en étant complètement dedans, tu sais. Puis en n'ayant aucune idée si je vais pas me mettre à pleurer bientôt, mais c'est ça ma voix, ça a l'air. Puis je me suis beaucoup questionnée sur est-ce que je parle, quand est-ce que je parle, est-ce que j'ai pas écrit, j'ai pas parlé, j'ai parlé à très peu de personnes. Oui, j'ai quelques amis avec qui j'ai parlé, mais c'est comme viscéral à l'intérieur de moi le besoin de communiquer à l'extérieur, pas juste à mes amis, à ma famille. Puis je pense qu'il faut que j'accepte que ça fait partie de moi, que par exemple, je travaille sur un livre depuis 2007, puis je suis toujours en train d'arrêter, je suis toujours en train de douter, je suis toujours en train de me dire que ça sert à rien. Puis c'est la même chose pour le podcast, j'avais tellement envie pendant des années de faire un podcast, puis j'ai commencé, puis je tripais, puis un moment donné, j'ai arrêté, puis j'ai recommencé, puis j'ai arrêté, puis... Je pense que c'est plus fort que moi. Il y a des choses, si on veut parler de spiritualité, il y a des missions, il y a des raisons pourquoi on est là. Puis on est obligé de le faire. Puis moi, c'est comme si je me battais avec le fait que je sens que je suis obligée de le faire. Puis mon ego qui a peur, qui est comme « Ben non, tu veux pas aller te mettre à nu comme ça. Tu veux pas aller te mettre en danger comme ça, d'étaler tes émotions. » Puis finalement, c'est vraiment juste du narcissisme. Alors que si c'était du narcissisme, je pense que je le ferais sans me poser de questions. Mais c'est ça, c'est drôle de choisir de partager mon vécu et de vous partager des réflexions et des concepts à travers de ça. Vous savez, le podcast est bâti sous forme de journal personnel qui amène à des réflexions plus grandes. Mais le fait de choisir ça, ben, c'est difficile. Puis je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Puis j'aimerais bien arrêter. J'aimerais bien douter moins, puis je me demande... C'est ça. J'ai fait un post sur Facebook où je parlais du fait que je sais pas pourquoi je fais les choses, mais il y a toujours quelqu'un qui apparaît puis qui me dit merci. Puis ça me dépasse. Tu sais, j'ai arrêté de faire le podcast pendant presque plus qu'un an. Presque 2 ans. Puis je recevais des messages, puis pendant le confinement particulièrement du printemps 2020, je recevais un message presque à chaque semaine dans mes courriels pour me remercier. Puis je me disais, ben voyons donc, j'ai fait ça il y a 2 ans, alors que j'avais tellement de doutes, mais je vois que ça fait du bien à des gens. Fait que tu sais, je pense qu'il faut que je me dégage complètement de... peu importe mon état de malaise par rapport à tout ce que je peux raconter, le fait que je me demande si c'est une bonne idée ou non, puis c'est un peu ce que je vous ai dit sur les réseaux sociaux dans les derniers jours, il faut juste que je lâche ma tête, puis que je laisse mon cœur faire la job, faire le travail. Et justement, ben, je vous parle un peu du nouveau logo. Dans le fond, j'ai décidé de faire une nouvelle identité visuelle pour le podcast, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment d'identité visuelle à part des photos. Mais là, j'ai travaillé sur un logo, puis j'ai été patiente, plus ou moins. Bon, j'ai pris 2 jours pour le faire au lieu de un logo normal qui prend plusieurs semaines de réflexion et tout, mais ça faisait quand même 3 ans que je savais ce que je voulais faire, puis depuis quelques mois que c'était beaucoup clair quel symbole je voulais voir dans le logo. Donc, j'ai fait ça, puis je vous l'explique rapidement, en fait. J'ai choisi de faire un cœur avec un œil, donc un cœur qui voit. Puis il y a un côté mystique dans... Chaque fois qu'on voit un œil, c'est le troisième œil, c'est la vérité, c'est l'œil perçant, c'est... Il y a quelque chose de la magie, de... Donc, quelque chose d'omniprésent, comme ça. Puis le cœur qui est au centre de tout ce que je veux faire et au centre de nos vies à tous. Et vous savez, ce qu'on dit, l'objectif final de tout ça, de tout le processus d'incarnation, de réincarnation, d'apprentissage de l'âme, c'est d'apprendre à aimer et d'être à 100% dans l'amour au final, t'sais. La seule chose qu'on est ici pour apprendre, selon ce qu'on retrouve dans la Bible, dans toutes sortes d'écrits, dans toutes sortes d'enseignements, c'est d'apprendre à aimer pleinement, t'sais. S'aimer, aimer les autres, juste être dans l'amour tout le temps. Alors voilà pourquoi un cœur. Et puis j'ai mis des petites branches, des petites feuilles de toutes sortes de couleurs, qui est la vie, en fait. Juste voir que c'est un cœur qui est vivant, qui s'anime, qui pousse, qui grandit comme un arbre. Et le symbole de l'arbre est super important. Dans plusieurs cultures, les racines, les branches. Donc c'est ça, c'était des symboles qui étaient très clairs pour moi, qui étaient super importants. Puis ben j'ai décidé de continuer à faire le podcast malgré tous mes doutes. Et ben je me suis dit, pourquoi pas faire une affirmation, une déclaration, un statement, comme on dit en anglais, en sortant un logo puis en disant, je suis encore là, je suis même encore plus là, je suis encore plus confiante dans un certain sens, mais surtout encore plus certaine de ce que je veux faire. Même si j'ai des doutes, c'est quand même ça, c'est quand même ce qu'il faut que je fasse. Donc, je me laisse aller là-dedans, puis je laisse mon cœur me guider plus que ma tête. Puis bon, j'essaie de moins en moins d'écouter ma tête, parce que Vous savez, une tête, c'est pratique, là. Oui, certainement. Mais nos têtes ont tendance à faire comme un petit hamster qui roule dans une roue puis qui n'arrête pas de rouler. Donc, parfois, on s'emprisonne dans des pensées, on s'emprisonne dans des peurs, dans des patterns de réflexion où ça tourne en rond, puis ça ne nous permet pas de nous épanouir. T'sais, vous savez, le cerveau, en fait, est fait pour prendre le chemin le plus facile. Donc, si vous avez une habitude, un chemin que vous faites neuronale depuis des années, si vous voulez changer pour une habitude meilleure, par exemple, arrêter de fumer, bien, vous avez une série d'actions. Vous vous levez le matin, ah, vous avez envie de prendre un café puis de fumer une cigarette. C'est un classique que les fumeurs nous disent, ils associent des actions. Alors, déconstruire tout ça, bien, ça implique de construire un nouveau chemin dans le cerveau. Vous voyez où je m'en vais? Alors, le petit cerveau, il nous joue des tours. Et, ben c'est ça que je veux dire. Le cerveau, c'est un outil. Et ça, on nous l'enseigne, on nous le dit souvent, c'est un outil, mais c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui mène. Il faut l'utiliser comme un outil, puis il faut pas le laisser nous jouer des tours. Fait que, en ce moment, je suis à fond là-dedans. Apprendre à utiliser mon cerveau comme un outil, puis d'autres fois dire « Hey, mon Joe! » T'es un petit peu dans le champ, puis je vais suivre mon cœur. C'est sûr que là-dedans, il y a la peur de faire n'importe quoi, d'agir sur un coup de tête, ok, mais on parlera pas de ça aujourd'hui. Parce qu'après, on peut parler de plein de trucs pour s'assurer que nos décisions sont bonnes, voir comment on se sent dans notre corps aussi. Donc, comment notre corps ressent ce qu'on a envie de faire, mais écoutez, il y a tellement de choses qui peuvent... Pour les personnes anxieuses, par exemple, on va faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, mais on va capoter en même temps, puis on va avoir peur. Fait que c'est vraiment pas facile, mais voilà, je vais quand même vous parler de l'importance de suivre son cœur. Alors, on va revenir au deuil. C'est vraiment spécial. Moi, c'est mon premier deuil important, puis je viens d'avoir 30 ans cet été. Et c'est drôle parce que je me disais, waouh, je suis au summum de ma vie, J'ai jamais été aussi bien, en fait. C'est ce que je me disais. Puis j'apprends à me connaître, puis j'apprends à me respecter, puis à bien m'entourer, puis je fais attention justement à pas m'auto-saboter. J'apprends plein de choses, puis je suis fière de moi. Puis ben là, bam, premier deuil, puis c'est probablement le deuil le plus important d'une vie, en tout cas un des plus importants, le deuil de sa mère. Puis pour tous ceux qui vivent un deuil en ce moment ou qui ont vécu un deuil, ben, je vous envoie juste un gros câlin parce que, mon Dieu, on a beau voir ça dans les films, on a beau en entendre parler, on n'a aucune idée c'est quoi. Puis ce que je me disais qui est très triste, c'est que on n'en parle pas. On n'est pas outillé. Je veux dire, oui, un psychologue va être outillé pour nous aider, mais il n'y a pas assez de littérature, il n'y a pas assez de partage sur le sujet dans la vie de tous les jours, dans les médias, dans les réseaux sociaux. On n'est pas prêt à ça, puis on parle pas de la mort comme quelque chose qui fait partie de la vie. On parle de la mort comme la chose dont il faut avoir peur. Puis moi, sincèrement, là, en ce moment, ça me fait tellement me questionner sur le sens des choses. Je me dis... J'ai eu tellement de colère. Je me disais, ma mère, elle a eu une belle vie, elle a aidé les gens, elle était vraiment beaucoup aimée. Puis pourquoi il a fallu qu'elle décède à 66 ans d'un cancer du cerveau? Puis là, je deviens vraiment frustrée. Puis je me dis, mais il y a où le sens là-dedans? Puis tu sais, ça vient me confronter complètement parce que j'ai étudié l'hypnose régressive. Je commence mon internat. Et le but de l'hypnose régressive, c'est d'aller trouver les clés pour ouvrir les portes qui sont fermées, les choses qu'on comprend pas, les choses qu'on guérit pas. Puis je me dis, j'aurais tellement aimé hypnotiser ma mère, puis j'aurais aimé, oui, la sauver. Puis j'aurais aimé qu'elle trouve la clé pour ouvrir la porte, pour comprendre pourquoi elle était malade, puis pour arriver à guérir ça, parce qu'on entend tellement d'histoires de guérison liées à ça. Fait qu'il y a une partie de moi qui est tellement enragée de pas avoir pu avec elle régler ça, ou qu'elle, elle ait pas pu régler ça, puis qu'elle ait pas pu vivre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans sans avoir à mourir à 66 ans, tu sais, d'un cancer du cerveau. Puis j'imagine que toutes les personnes qui vivent un deuil ont eu cette période-là où ils sont vraiment fâchés de pas... que ça soit pas passé autrement, tu sais. Puis j'en revenais à ce que je disais tantôt, je me demande comment est-ce que je peux être heureuse alors que ma mère est décédée. Puis la réponse m'est venue hier, en fait, une partie de la réponse. Je suis allée marcher dans la forêt après avoir terminé, justement, le logo. Puis la réponse, en fait, c'est que j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de comment je peux être heureuse alors que ma mère est décédée, mais pourtant, apparemment, je le suis de plus en plus, puis je vais l'être de plus en plus, puis je vais l'être tout court. Puis c'est tellement... c'est fou! La quantité de contradictions puis de complexité dans la vie humaine. Je sais pas comment qu'on fait. On est juste tellement résilient, puis... c'est fou. On dit, tu sais, dans une perspective spirituelle de réincarnation, on dit que on vient vraiment ici pour développer la profondeur de notre expérience, puis de notre compréhension de l'expérience, puis juste le vécu, l'expérimentation brute. Fait qu'on a à vivre ça pour comprendre ça. C'est vraiment comme si on entrait dans un jeu vidéo, puis là, on va faire une partie... puis dans cette partie-là, il faut qu'on arrive à trouver le secret de la... cacher des ruines, de je sais pas quoi. Puis on va vivre tellement de choses. Fait que cette contradiction-là de... j'ai aucune idée comment je peux être heureuse, mais je le suis. Ben je pense qu'il faut l'accepter. J'ai un ami qui me faisait penser de nouveau au fait que c'est tellement, ça peut tellement, tellement paraître ridicule. Il y a comme un manque de sens, puis en même temps, il y en a un, tu sais. Puis moi, je suis tombée complètement dans le manque de sens au point de plus m'attacher à ma foi, tu sais. Non, j'ai pas perdu la foi, mais j'ai douté momentanément de ma foi, tu sais. Puis tu sais, pourtant, j'avais des signes. Le jour où ma mère est décédée, elle est décédée dans la nuit, puis je vous ai dit, je suis allée travailler le lendemain. Puis j'étais en auto, puis j'ai entendu une chanson que j'avais jamais entendue. C'était n'importe quoi. Puis là, je me rappelle, en fait, je travaillais au Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, puis je partais de Rivière-du-Loup, qui est la région d'à côté. Puis quand on quitte l'autoroute, on arrive, puis on voit le fleuve, puis le paysage est tellement beau, puis à chaque jour, je me disais « waouh, merci ». Puis je m'abreuvais vraiment de ce paysage-là dans mon cœur, puis j'arrive, puis là, il y a la chanson qui dit « on va se revoir en haut ». Ou quelque chose comme ça. Je m'en peux plus exactement. T'sais. On va être deux étoiles dans le ciel. On va se revoir. Puis, j'avais jamais entendu cette chanson-là. Puis, la dernière chose que j'ai dit à ma mère avant de la quitter, je lui ai juste raconté comment je vois la mort, puis la réincarnation, puis la vie dans l'au-delà, comme je l'ai étudié avec l'hypnose. Puis, je lui ai dit... quand tu vas partir, tu vas arriver en haut, puis toutes les gens que t'aimes vont être là. Puis même nous, on va être là, puis tu comprendras pas pourquoi. Mais c'est comme ça, tu sais. Puis on va se revoir. Puis le lendemain, j'ai entendu ça à la radio, puis je me disais, mais voyons donc. Puis là, j'étais en extase, tu sais. J'étais dans la grâce, puis je me disais, c'est sûr qu'elle est en train de me dire que c'est vrai, tu sais. Puis pourtant, on trouve quand même le moyen par après de douter, tu sais. Puis de se dire que, ben non, c'est... ça a aucune valeur, ça, tu sais. Puis après, j'ai pris quelques jours de congé, puis quand je suis retournée, j'avais deux emplois cet été, quand je suis retournée à mon autre travail dans un café, parce que si j'ai à me décrire, je vais dire, je suis... je sais pas comment me décrire. Je suis une entrepreneure spirituelle et une barista. J'aimerais ça trouver un mot mieux que entrepreneur spirituel. Si vous avez des idées, là, ça va vraiment me faire plaisir que vous me les envoyiez. Et barista, puis j'aime vraiment travailler dans un café à temps partiel, pas juste faire ça, parce que après, tout mon côté, je dois écrire et je dois faire des podcasts qui ressortent, puis là, je deviens folle. Mais c'est ça, j'aime beaucoup le métier de barista. Puis le contact avec les gens, puis. Fait que là, c'est ça, je m'en vais travailler, puis je me disais le matin, ça va être dur, ça me tente pas de retourner travailler, ça me tente juste de rester chez moi, puis de pleurer, ou de rien faire, ou de. Puis là, finalement, c'était une super belle journée, ça roule, je suis occupée, j'ai pas le temps de penser, ça fait du bien de changer les idées, tu sais, puis de voir des gens. Puis à la fin de la journée, je ramasse tout, puis j'arrive à côté d'une étagère. Puis il y a sur une tablette, en fait c'est un café céramique, donc les gens peuvent aller peindre la céramique, ensuite on la fait cuire, puis on leur redonne un coup que la pièce est prête. Et je passe à côté d'une tablette, puis il y a une pièce, c'est une super belle licorne, c'est une boîte en fait en deux parties. Puis en dessous, elle a été signée, comme la plupart des gens signent leur pièce. Puis il était écrit, il y avait un cœur, il était écrit Amy, maman. Puis écoutez, je sais très bien que c'est pas ma mère qui a peinturé ça. Je sais très bien que c'est des gens qui sont venus. Mais juste de voir que c'était mon retour au travail. J'avais un cœur avec Amy, maman. Moi, c'était clair dans ma tête que c'était un signe. Puis vous savez, si on pense loi de l'attraction, si on pense physique quantique, c'est un signe. Puis tout ce qui arrive, arrive pour soi-même. Puis ça a l'air bien spécial. C'est un concept tellement profond puis en même temps tellement simple, c'est l'idée que c'est comme si on était le seul spectateur de notre vie, puis que tout est un signe finalement. Fait que tu sais, pour ces gens-là, il y avait quelque chose de précieux dans leur moment. Puis pour moi, c'est comme s'ils étaient venus simplement pour me livrer ce message-là. Comme si cette journée-là, ils étaient venus peindre une pièce de céramique, puis ils avaient mis sa tablette, puis ils l'avaient signée avec un cœur et mis maman dessus, juste pour moi. Puis quand on commence à voir les choses comme ça, soit on devient complètement narcissique, soit on comprend que c'est comme ça qu'on arrive à communiquer avec tout ce qui est intangible. Vous savez, les médiums fonctionnent comme ça. Ils sont alertes à tous les signes, tous les symboles, toutes les informations. Parce que l'idée, c'est que en physique quantique, on crée notre propre univers. Donc, ce que je vois dans mon univers est là pour m'apporter une information. Pour en parler. Mais je reviens à mon histoire. La veille, j'ai un ami qui m'écrit en blague je t'exauce un vœu, dis-moi ce que tu veux, puis je lui dis oh, mais je te laisse décider, je te fais confiance, puis il me dit ok, mais quelle couleur tu veux ta licorne? Puis je dis oh, turquoise. Et c'était une boîte de licorne qui était sur la tablette et le contour de la licorne était turquoise, mais on s'en fout de la couleur. J'ai envoyé la photo à mon ami, puis il m'a dit waouh. Alors, je vous dis, on reçoit des signes, on reçoit nos proches qui disparaissent, ils essaient de nous contacter. Ils veulent nous contacter, ils veulent prendre soin de nous, ils veulent nous dire que tout va bien. Mais si on a des œillères puis qu'on est dans notre peine, ben on le voit pas, on le vit pas. T'sais. Puis c'est normal. T'sais. J'ai pas fini là. Ça fait 2 mois que ma mère est décédée. J'ai encore des moments où je suis fâchée après absolument tout. Puis je vais voir mon ostéopathe puis elle me dit t'as donc ben de la colère. Puis je dis ben oui. Puis je sais pas quoi faire. Puis un de mes bons amis, comme il dirait, ben c'est juste le temps. C'est juste le temps qui règle ça. Puis c'est ça qui est dur à accepter puis à lâcher prise. Puis je pense que toutes les personnes qui ont passé à travers un deuil difficile vont dire la même chose. Je sais pas comment je peux être heureuse, mais je sais que je le suis puis que je vais l'être. C'est bizarre. Ça confronte tout. J'aurais aimé passer plus de temps avec ma mère, j'aurais aimé être plus proche d'elle, j'aurais aimé lui poser les questions difficiles. J'aurais aimé la connaître plus, la comprendre plus. Qu'elle me connaisse plus, qu'elle me comprenne plus, qu'elle me comprenne plus. Il y aurait tellement de choses que j'aurais aimé vivre. Puis ça fait des regrets. Puis c'est dur d'accepter de vivre avec ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est le gros cliché de si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, si vous avez quelque chose à faire, quelque chose à vivre, faites-le parce que après il est trop tard. Puis c'est drôle parce qu'avant que ma mère décède, je me disais on va développer une relation dans l'au-delà ensemble. Mais dans l'intangible plus que dans l'au-delà parce que moi je suis encore là. On va développer une relation dans l'intangible ensemble, puis ça va être vraiment le fun. T'sais. On va apprendre à travailler ensemble. Puis dans ce moment-là, j'étais dans la grâce, tu sais. Mais là, en ce moment, je suis dans le deuil. Fait que je le vois moins, ça, tu sais. Je me dis moins, waouh, ma mère est partie, c'est le fun, on va apprendre à travailler ensemble dans l'intangible. Cette pensée-là, elle revient tranquillement, mais elle était plus là du tout, là. Elle était vraiment, vraiment plus là, là. J'étais juste fâchée, puis j'étais comme, c'est quoi, comment j'ai pu être assez naïve puis assez conne pour penser qu'on allait travailler ensemble dans l'intangible, ma mère est plus là, je la vois plus. C'est penser qu'on verra plus quelqu'un, c'est vraiment, 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 vraiment difficile. Ouais, je me disais, ma mère a disparu. Puis après, je sais qu'il faut que je m'assoie, qu'il faut que je médite, qu'il faut que je prie, qu'il faut que je prenne le temps de m'apaiser, puis que je vais pouvoir lui parler, tu sais. Puis que peut-être qu'elle va me répondre, puis peut-être effectivement qu'elle va travailler avec moi, peut-être qu'elle va m'aider avec le podcast, peut-être qu'elle va me souffler des idées, peut-être qu'elle va m'aider dans mes soins Reiki, peut-être qu'elle va venir me parler dans des séances d'hypnose régressive. Je sais que j'ai rêvé à elle, puis dans ma tête, elle est clairement venue me voir dans mes rêves pour me faire du bien, puis ça m'a fait du bien. Pendant deux nuits d'affilée, je la voyais super belle, puis c'est comme si elle était venue me dire que c'était correct, t'sais, qu'elle allait bien, où elle était, tu sais. Je voyais son énergie, puis... Mais c'est ça. C'est tellement plein de contradictions. Puis, je sais, ça c'est ma partie humanitaire. Je sais qu'en ce moment, avec cette pandémie mondiale sidérante, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vivent des deuils. Parce que, apparemment, la quantité de décès mondial a augmenté. Fait qu'à tous ceux qui vivent un deuil en ce moment, je suis de tout cœur avec vous. Puis je pense que c'est important d'en parler. Si vous avez envie qu'on en parle ensemble, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des proches avec qui vous pouvez en parler, allez-y. Ce qui est dur, c'est que souvent on se juge. Moi, quand j'étais justement enragée après tout le monde, j'avais besoin de parler du fait que j'étais enragée après tout le monde, mais j'avais aucune idée avec qui je pouvais parler de ça. Puis j'ai juste un ami avec qui je me sentais vraiment à l'aise, là, de cracher toute ma colère. Puis c'est important. J'ai écouté un podcast que j'ai vraiment aimé, qui expliquait qui expliquait une façon en fait de vivre une émotion, une frustration, puis de guérir. C'était de parler à trois personnes. Donc, on prend l'état dans lequel on est. Si on est enragé, on est enragé. Puis on va voir trois personnes. Puis on leur pitch ça. Toute la rancœur, tout le venin, peu importe. Ça peut être beau aussi, mais je parle d'une situation qui est difficile. Trois personnes, on se laisse aller. Mais après, ben il faut être constructif. On n'a pas besoin d'oublier ce qu'on a dit, mais il faut avancer. Puis souvent, tu sais, j'écoutais ça, j'étais là, waouh, c'est tombé beau, c'est tombé une bonne idée, ça a l'air de marcher, j'aime ça. Il faut les trouver, ces trois personnes-là. Puis je me suis rendu compte que, comme je disais au début, moi, je suis quelqu'un d'introverti, puis si ça va pas bien, je me referme. Puis j'ai pas construit encore dans ma vie ces trois personnes-là. Ces trois piliers-là sur lesquels je peux pas m'appuyer, mais avec lesquels je peux partager, puis qui vont être dans un équilibre avec moi, qui vont pouvoir faire la même chose, dans une relation qui est vraiment solide, tu sais. Fait que je l'ai fait avec mon amie, justement, puis je me disais, bon, je vais aller voir mon thérapeute, puis j'ai justement mon ostéopathe, tu sais, mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est important de trouver trois personnes, d'identifier trois personnes, puis de se construire des relations solides aussi, tu sais, pas dans le but de nous supporter le jour où ça va aller mal, mais juste parce que on prend conscience dans des moments de vulnérabilité à quel point on a besoin d'avoir des relations solides. Fait que ce serait un truc à vous donner pour les personnes qui, comme moi, vivent une situation difficile. Il y a des groupes de discussion aussi, des forums. Si jamais c'est dur de trouver trois personnes, ben, il y a des groupes d'entraide qui existent sur les réseaux sociaux, par exemple, ou des forums sur Internet. Faut se permettre d'être créatif, mais tu sais, je sais que moi-même, j'avais même pas l'énergie. C'est comme si tout ce que je pensais à faire, j'étais découragée de le faire, puis je me disais que ça servait à rien, que c'était vain. Puis ça aussi, c'est un état. Je pense que c'est une phase qu'on traverse dans le deuil qui va durer X temps. Puis d'une personne à l'autre, c'est tellement différent. Puis je pense aussi qu'il faut éduquer les gens sur le fait que le deuil est extrêmement différent d'une personne à l'autre. Puis tu sais, on peut juger quelqu'un puis dire « Voyons donc, il est encore là-dedans. Moi, j'ai fait le deuil de telle personne. Je passe à travers, c'est fait. » Mais s'il y a une chose qu'on est en train d'apprendre en ce moment au niveau mondial, en tant que société mondiale, c'est que les gens sont différents. Il faut respecter les limites. Pas juste les limites, mais les... Qu'est-ce qui fait qu'une personne est unique? Qu'est-ce que la personne, elle accepte? Qu'est-ce que la personne, elle accepte pas? Qu'est-ce que la personne, elle aime? Qu'est-ce que la personne, elle aime pas? Qu'est-ce qui est un comportement acceptable pour une personne? Qu'est-ce qui l'est pas pour une autre? On voit des enfants différents, des enfants qui ont un TDAH, un TDA, plus d'autisme, on découvre la douance encore plus. Alors, on découvre qu'il y a tellement de façons d'être, même au niveau neurologique, qui sont différentes. Fait que le deuil en fait partie. C'est différent d'une personne à l'autre, puis il faut être... Je pense qu'il faut laisser plus de place à comprendre ça dans notre société. Dans nos communautés. Fait que c'est ma grosse affirmation, déclaration de cet épisode-ci, de juste pouvoir signifier à quel point c'est dur, profond, complexe, puis que c'est plate parce que pour certaines personnes, on va avoir tendance à vouloir s'isoler alors qu'on est justement à notre plus vulnérable. Puis si on apprend à parler plus du deuil, puis à le mettre plus comme quelque chose de normal, pas juste de normal, mais qui nous rend justement extrêmement vulnérables, peut-être qu'on aura plus tendance à le dire quand on est vulnérable. T'sais, moi, je trouvais ça dur parce que je suis engagée, je fais du bénévolat, puis j'ai nommé que ma mère venait de décéder, puis que j'avais besoin de prendre une pause, puis on n'a pas respecté mon besoin, puis on continuait à venir m'interpeller aux deux jours, ou à tous les jours. Puis ça a vraiment pas aidé à ma colère. J'étais enragée après ces gens-là, parce que je me disais, mais ils ont aucun respect. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut éduquer les gens. Parce que peut-être que pour eux, ben, ils ont continué à travailler. Hein? Peut-être qu'eux, ils se disent, voyons, la vie continue, tu peux pas tout arrêter parce que t'es en deuil. Ben, moi, je suis comme ça. Moi, je suis hyper sensible. Puis si je vis quelque chose de gros comme ça, faut que j'arrête parce que je peux faire un accident d'auto, je peux me couper une main, il y a tellement de choses qui vont être tout croche si je me respecte pas. Je peux piquer une colère, en une place publique, tu sais, juste parce que je me respecte pas puis que je prends pas le temps dont j'ai besoin pour me recueillir. Si on éduque plus les gens sur la différence du deuil d'une personne à l'autre, puis la difficulté, ben, je pense que on va évoluer aussi. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le deuil. Puis, encore une fois, j'envoie plein d'amour à ceux qui vivent des choses similaires. Je m'en envoie à moi-même. Puis, je pense que je suis fière d'évoluer, de reprendre la parole après 2 mois de silence. Je suis fière d'arriver avec un nouveau logo, avec... Je lâche pas. C'est juste ça que j'ai à dire. Puis pas dans l'idée où... je lâche pas dans le sens où j'ai des doutes. Des fois, je me demande si je fais la bonne chose, mais dans mon cœur, ça dit que c'est une bonne idée. Fait que la chamane est encore là. Puis, j'ai hâte de vous revoir. J'ai une série. Le bon côté d'avoir pris une pause, c'est que j'ai une liste de thèmes dont j'ai envie de parler. Fait que voilà, c'en était un. Puis, on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous d'ici là. Au revoir.